Mon potager de vivaces avec Aymeric Lazarin.
Donc je vais vous parler du potager vivace. Je vais un peu briser les codes du potager traditionnel. Donc n'hésitez pas à réagir, soit pendant, soit après la présentation. Je vais faire d'abord une petite introduction sur les légumes vivaces et ce que sont les légumes vivaces. Donc on connaît trois cycles chez les végétaux, trois cycles de vie. On a les plantes annuelles qui effectuent tout leur cycle de vie sur une année, c'est-à-dire qu'elles germent au printemps, elles réalisent la floraison et leur multiplication dans l'année avant de mourir, avant la période hivernale, avant le retour des mauvais jours. Ensuite on a le cycle des bisannuelles. Donc les bisannuelles réalisent exactement le même cycle mais étalées sur 2 ans. C'est-à-dire qu'au cours de leur première année de croissance, elles vont réaliser la photosynthèse, mais elles ne vont pas fleurir ni fructifier. Elles vont consacrer cette première année de vie au stockage, à la réalisation et au stockage de réserves, notamment dans leur système racinaire. Donc sur le schéma, vous avez l'exemple de la carotte. Elle va passer leur premier et leur seul hiver en vivant grâce à ces réserves qu'elles ont stockées souvent dans leur système racinaire, dans leur organe de réserve, qui est donc bien souvent une racine. Et à l'arrivée des beaux jours, lors de la seconde année de leur cycle de vie, elles vont se redévelopper, refaire du feuillage, et là elles vont initier la floraison et donc la fructification. À la fin de cette seconde année de vie, elles vont donc se ressemer, épandre leurs graines et mourir, une fois qu'elles se seront multipliées. Et enfin, on a le dernier cycle de vie, les plantes vivaces, qui, elles, réalisent le même cycle, mais sont capables de le réaliser plusieurs fois, pendant 3, 4, 5 ans, voire pendant plusieurs siècles pour les arbres. Donc les arbres sont des légumes vivaces. Sont des plantes vivaces. L'idée de s'intéresser aux légumes vivaces est partie d'un constat très simple, c'est que la plupart des légumes que nous consommons ont une durée de vie de quelques jours. Pour ceux qui jardinent, on vous présente souvent au dos des graines ou au dos des plants, des fiches d'identité de chaque plante, on vous présente le nombre de jours qu'il faut attendre avant la récolte. Donc si vous semez des haricots par exemple, on vous dira il faut attendre 60 jours avant la récolte. Et ensuite, vous pouvez laisser mourir votre plant. Si vous faites des salades, ce sera 45 jours. Ensuite, vous pouvez laisser mourir la racine. Et donc, c'est assez paradoxal, mais les légumes, qui sont quand même à la base de notre alimentation, on les cultive de façon intensive pendant quelques jours, quelques semaines, 6 mois au maximum, pour les cultures les plus longues, on va dire. Et pendant cette durée de culture, cette durée de vie, on va les booster. On va les gaver au maximum pour garantir une grosse récolte. Voilà, donc c'est vraiment, on exploite le vivant pour garantir et pour s'assurer de la récolte la plus intense et la plus importante possible. Et pourtant, dans le règne végétal, on s'aperçoit que des plantes comestibles, il en existe beaucoup et il en existe qui sont aussi vivaces. Alors pourquoi ne privilégier et ne cultiver que des plantes qui ont une durée de vie aussi courte, alors que les plantes vivaces pourraient présenter de nombreux avantages. Donc ce sont ces avantages-là que je vous propose de découvrir maintenant. Alors tout d'abord, ce sont des légumes qui sont disponibles toute l'année. C'est-à-dire que le potager ne se résume plus à un petit lopin de terre qu'on cultive dès le mois de mai et qu'on abandonne au mois de septembre. Le potager vivace, c'est un jardin qu'on cultive toute l'année. Alors évidemment, il y a une période un peu plus où il y a un peu plus de tâches à réaliser que l'hiver, évidemment. Mais un potager de vivace a besoin de nous toute l'année. Et on réalise des récoltes toute l'année également. On prendra des exemples tout à l'heure. Vous verrez que des récoltes sont possibles, y compris en plein cœur de l'hiver. Deuxième avantage, c'est que les plantes vivaces sont plus résistantes par nature aux plantes annuelles. Leur cycle de vie les rend plus résistantes, tout simplement parce qu'elles sont faites pour passer des hivers entiers en place. Donc elles sont capables déjà de résister aux aléas climatiques. Une plante annuelle doit réaliser son cycle au plus vite. Elle n'est pas là pour résister aux aléas du climat. Elle est là pour réaliser son cycle, vite fleurir et mourir. Les plantes vivaces, elles, sont là pour rester plusieurs années et donc elles ont le temps de développer un système racinaire beaucoup plus important et beaucoup plus profond. Les plantes vivaces s'enracinent plus profondément et donc sont plus résistantes, notamment à la sécheresse, puisque leur système racinaire, qui s'enfonce plus profondément dans le sol, est capable d'aller puiser l'eau sur des horizons plus lointains, plus frais. Vous verrez que ça présente des intérêts multiples, non seulement sur la résistance à la sécheresse, mais aussi notamment en termes de concurrence avec les adventices, avec les mauvaises herbes, entre guillemets, qu'on s'évertue à arracher en permanence. Le troisième avantage, c'est évidemment, il est évidemment économique. Les plantes vivaces présentent des intérêts économiques multiples. Déjà parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on peut les récolter tout au long de l'année. On ne fait pas une seule récolte sur laquelle on va essayer de vivre pendant quelques mois. Le légume vivace, il est en place toute l'année. Donc tout au long de l'année, au fur et à mesure de nos besoins, on peut aller récolter juste ce dont on a besoin. Donc il n'y a pas de gaspillage. Et en même temps, à chaque fois qu'on en a besoin, on sait qu'on peut compter sur eux. Ils sont au jardin. Vous n'avez pas d'idée pour cuisiner, par exemple. Eh bien, ils peuvent vous rendre service. Ensuite, en termes de renouvellement du potager, les plantes annuelles, je pense que certains de vous le pratiquent, chaque année, il faut aller racheter de nouvelles semences, refaire ses plants, racheter du terreau pour les semis. Pour un peu que vous cultiviez des variétés hybrides, c'est-à-dire pour lesquelles on ne peut pas récupérer les semences à la fin de la saison, alors vous êtes contraint chaque année de racheter de nouvelles semences, ce qui représente un coût. Avec les légumes vivaces, non seulement vous n'avez pas besoin de renouveler vos plants chaque année, puisqu'ils sont en place, mais en plus, ils sont très faciles à multiplier, soit par semis, là il n'y a pas d'hybride, vous pouvez être sûr que les semences que vous allez récupérer sur les légumes vivaces, vous pouvez les faire germer, et elles germeront normalement. Donc non seulement par les semences, mais aussi par d'autres techniques de multiplication, comme les multiplications végétatives, soit les divisions de souches, comme pour la rhubarbe ou le chervi, on les verra tout à l'heure, soit par bouture pour certains. Donc ça présente un intérêt. On peut les multiplier à volonté, chaque année, soit pour augmenter sa productivité, augmenter son jardin, soit pour en faire partager les voisins, les amis, la famille. Donc les plants vivaces, une fois que vous avez un plant chez vous, vous pouvez le multiplier à souhait, autant que vous le souhaitez. Un autre avantage, on parle beaucoup actuellement de saisonnalité des fruits et des légumes. Et bien avec les légumes vivaces, vous allez être obligé de consommer au rythme de votre potager. C'est-à-dire que vous allez consommer ce qu'il est capable de vous donner au moment où il est capable de vous le donner. Et c'est plus vous qui allez dicter votre loi. Vous n'allez plus dire « je veux des tomates ou des fraises à Noël ». C'est plus possible. Désolé. Vous allez être obligé de vous baser sur son rythme de vie, ce qui peut présenter des inconvénients pour certains, mais ce qui présente aussi de gros avantages, notamment écologiques et environnementaux. Et je vais prendre un exemple pour la roquette annuelle, par exemple. Donc tous ceux qui cultivent la roquette annuelle la plantent au mois de mai et récoltent de la roquette tout au long de la saison jusqu'au mois d'octobre pour les plus chanceux. Si vous passez à la roquette vivace, non seulement vous n'aurez plus besoin de la racheter tous les ans, mais en plus, il suffit qu'il y ait une période de 15 jours de redoux au cœur de l'hiver pour qu'elle se remette à faire du feuillage et donc pour qu'elle vous redonne des récoltes potentielles. Et donc ça, manger de la roquette en hiver ou en plein mois de janvier, si on a un petit redoux au mois de janvier, ce n'est possible qu'avec des légumes vivaces puisque votre roquette annuelle, je ne vois pas comment vous pourriez en récolter au mois de janvier. Ensuite, c'est une source de découverte pour le jardin, évidemment, mais aussi pour la cuisine. Parce que vous allez voir tout à l'heure que les légumes vivaces, ou en tout cas la culture des légumes vivaces, ouvre la porte à de très nombreuses possibilités et à de très nombreuses perspectives en termes de saveur, en termes de texture et en termes de recettes, du coup, de recettes culinaires. C'est aussi une façon de préserver l'agrodiversité. Donc là, on est dans de l'écologie et dans de la conservation de la biodiversité pure et dure. Il existe un chou maritime qui poussait autrefois sur les littoraux bretons et de Normandie. On l'appelle soit le chou maritime, soit le crambé aussi. Et donc c'est une plante qui avait complètement disparu à l'état sauvage sur les plages de Galles. Et grâce à l'intérêt et à l'engouement qui existe aujourd'hui sur les légumes vivaces, le chou maritime a été cultivé par de nombreux jardiniers. Il a été cultivé si massivement qu'aujourd'hui on l'a réintroduit dans son milieu naturel. Et voilà, c'est un exemple assez parlant du rôle du jardinier aussi dans la conservation des espèces et dans leur réintroduction dans le milieu naturel. Et enfin, vous verrez par les photos qui seront bien plus explicites que mon discours, que la façon de jardiner les plantes vivaces remet complètement en question notre façon d'aborder le potager et qu'on peut ainsi décloisonner le potager et le massif ornemental. On peut associer les plantes, les fleurs qui sont habituellement cultivées que pour l'esthétique, on peut les réassocier aux plantes comestibles pour ne faire plus qu'un seul massif qui soit à la fois ornemental et vivrier, comme on le découvrira tout à l'heure. Donc je vais vous en présenter quelques-uns, ça n'a rien d'exhaustif, et puis ensuite vous réagirez. Alors le premier, incontournable, c'est l'ail des ours. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent. Alors c'est fantastique parce qu'on peut le consommer toute l'année. Et toutes les parties de la plante sont comestibles. Que ce soit les fleurs, les boutons, les feuilles, les tiges ou le système racinaire, tout est comestible. Donc on a toute la partie aérienne qui peut être consommée dès maintenant, dès le mois de février, jusqu'à ce qu'elle sèche avec l'arrivée des fortes chaleurs, donc vers le mois de juin, juillet ou de plus en plus vers le mois de mai même, depuis quelques années. Et ensuite, une fois que les feuilles ont séché, ont disparu, il est encore possible d'arracher les bulbes, comme on le ferait avec de l'ail traditionnel. Voilà, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage dans une grande partie de la France, dans les coins un peu boisés et ombragés, et je crois dans la région aussi, il y en a beaucoup. Voilà, donc utilisation, c'est exactement comme l'ail traditionnel. Certains diront qu'il est même meilleur, mais ça, je vous laisse faire votre propre opinion. Mais voilà, là, typiquement, on a un légume vivace qui peut remplacer un légume, en tout cas un condiment annuel, sans aucun effort de changement de comportement de notre part. Donc ça, c'est assez rare pour être souligné. Un autre ail. Pardon ?
Je vous propose de garder les questions pour après, parce que d'abord, comme on est enregistré, pour que ça passe bien, donc vous les notez dans un coin de votre tête et on reprendra ça rapidement. Merci.
Gardez-la, je réponds tout à l'heure. Un deuxième ail, c'est l'ail rocambole. Donc il se consomme toujours de la même façon que le précédent, l'ail des ours ou que l'ail traditionnel. Sauf que cette fois-ci, au lieu de consommer le bulbe du pied, le bulbe qui est en terre et qui assure l'alimentation de la plante, celui-ci va faire des bulbilles au sommet des tiges, des bulbilles aériennes, on appelle ça. C'est-à-dire que le pied en lui-même, le bulbe du pied, peut rester en place pendant, actuellement, j'ai 8 ans de recul sur cette plante, donc au moins 8 ans en place, et chaque année, il va donner des bulbilles aériennes qui, elles, peuvent être soit cueillies et consommées, soit replanté pour être multiplié, comme je vous disais tout à l'heure, et qui peut aussi être conservé parce que l'ail rocambole se conserve aussi bien que l'ail traditionnel. Un petit bémol quand même, il faut reconnaître que les bulbilles aériennes sont plus petites que les têtes d'ail qu'on trouve parfois dans le commerce. Mais voilà, à part un peu plus de patience au moment de les éplucher, les utilisations sont exactement les mêmes. Ensuite, un légume vivace que tout le monde connaît cette fois, mais qui a quelque chose de particulier, c'est sa longévité. Un plant d'asperge peut rester au minimum 15 ans en place. C'est-à-dire que pendant 15 ans, chaque année quand c'est la saison, vous pouvez consommer les turions, c'est-à-dire les asperges qui sortent de terre, comme on le voit là sur la photo. C'est l'un des légumes vivaces les plus connus, et c'est ceux dont on ne s'est jamais vraiment éloigné, parce que vous verrez tout à l'heure que certains légumes vivaces ont été beaucoup consommés dans les campagnes et sont un peu tombés aux oubliettes ces dernières années. Donc, juste une petite précision, si vous voulez planter des asperges, c'est qu'il ne faut surtout pas récolter tous les turions qui sortent de terre. Donc les turions, ce sont les asperges, c'est la partie qu'on consomme. Il faut toujours en laisser 3 ou 4 minimum pour que la plante puisse quand même faire son système foliaire et puisse survivre jusqu'à l'année suivante. Vous comprenez bien que si on récolte tous les turions, on prive la plante de toutes ses parties foliaires et donc on ne lui permet pas de repartir l'année suivante. Voilà, je parlais des légumes vivaces qui avaient massivement été consommés dans les campagnes et qui sont un peu tombés aux oubliettes. Je pensais précisément au chénopode bon-henri, qu'on appelle aussi l'épinard sauvage, qu'on trouve beaucoup dans les alpages, dès qu'on monte un peu en altitude, et qui est, comme son deuxième nom l'indique, donc d'épinard sauvage, qui est très proche de l'épinard, qui a le même goût, il est même un peu plus fin, et qu'on consomme exactement de la même façon. On peut le cueillir tout au long de la saison, dès le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été, dès qu'on monte un petit peu donc, en alpage. On le retrouve très souvent associé à l'ortie, qui elle aussi peut être consommée, et elle aussi est un légume vivace. Petite précision, donc, cette plante rentrait dans la recette des traditionnelles oreilles d'âne. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc c'était un plat traditionnel dans le Dauphiné, il me semble. Ça consistait dans les Hautes-Alpes, pardon. Il y a un puriste dans la salle. Du Champsaur, précisément. Donc vous me corrigez sur la recette si je me trompe. Mais donc ça consiste dans un plat à gratin à envelopper dans une pâte à crêpes, dans une crêpe. Cette plante, parfois associée à la tétragone aussi, qui est un autre légume sauvage. Le tout était refermé donc dans la crêpe, passé au four avec un petit peu de fromage dessus, et traditionnellement servi avec de la viande d'agneau. C'est bien ça. Voilà. Donc le cousin de l'ail rocambole, voilà l'oignon rocambole. Exactement le même principe que l'ail rocambole. Donc chez l'oignon, habituellement, on plante des bulbilles qui sont assez petits, qui font la taille d'une groseille, et on les laisse grossir. Jusqu'à ce qu'ils soient très gros et jusqu'à ce qu'on les récolte tous ensemble à la fin de l'été. Donc là, l'oignon rocambole, on le plante, on peut le planter toute l'année, c'est une plante vivace. Et à la fin de l'été, il va nous donner des bulbilles aériennes, comme l'ail rocambole, qui peuvent être assez grosses cette fois, contrairement à l'ail rocambole, qui peuvent faire la taille d'un petit abricot. Et qu'on peut, eux aussi, soit replanter dans le but de multiplier la culture, de l'agrandir, soit consommer frais, soit conserver, séché. Voilà, dans un endroit assez frais, sec, et dans le noir pour pas qu'il regerme immédiatement. Voilà, là encore, c'est un légume qui remplace l'un de nos légumes classiques, traditionnels, et qui ne nous demande aucun effort de changement d'habitude, donc très facile à adopter. Le poireau perpétuel qui permet de remplacer le poireau traditionnel. Donc le poireau perpétuel, là encore, on le plante toute l'année. On peut l'acheter sous forme de bulbe. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il s'étale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul fût On appelle ça des fûts. Au lieu de ne faire qu'un seul fût qu'on va laisser grossir et qu'on va consommer à la fin de la saison ou pendant l'hiver, lui, il va en faire plusieurs des fûts. Alors, ils seront moins gros, certes, mais il peut en faire une dizaine, voire une quinzaine par an, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite. Si vous arrosez beaucoup au cours de la culture, le fût peut faire la taille d'un pouce, le diamètre d'un pouce. Si vous arrosez pas du tout, il sera assez frêle et il n'y aura pas grand-chose à manger. Donc voilà, il a besoin d'un petit peu d'eau quand même. Par contre, la particularité, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus fort, ou en tout cas beaucoup plus parfumé que le poireau classique. Donc il en faut moins. Il est plus petit, mais il en faut moins aussi pour parfumer les sauces, les potages ou les recettes. C'est vraiment si vous souhaitez faire des poireaux à la vapeur que là, vous allez voir la différence entre un poireau classique et un poireau perpétuel. Voilà, là aussi, vous pouvez le multiplier très facilement. Donc, soit en récupérant les semences et en faisant vos propres semis, soit en divisant les fûts. Donc, au lieu de les couper à la base pour les consommer, vous faites une division de souches et vous récupérez des racines avec le fût que vous prélevez. J'attire aussi votre attention sur l'aspect ornemental, puisque vous avez une fleur là en photo à gauche. Voilà, la fleur de poireau perpétuel n'a absolument rien à envier aux aulx d'ornement, pour ceux qui connaissent l'ail d'ornement. On va passer maintenant aux légumes racines. Alors, les légumes racines, ils présentent plusieurs intérêts. Donc, toujours sur la multiplication, évidemment. Mais aussi et surtout sur leur saisonnalité. Pour certains et pour beaucoup d'entre eux, on peut les laisser en place. C'est-à-dire, on peut les laisser en terre tout au long de l'année. Et ceux qui ne seraient pas consommés pendant l'hiver, ils pourraient repartir au printemps suivant, garantissant ainsi l'éternité, si on peut dire, de la culture. Donc le premier que je vous présente, c'est le crotte du Japon. C'est un légume qui est originaire du Japon, comme son nom l'indique, et qui a été acclimaté pour la première fois dans la ville de Crone, dans l'Essonne, et qui s'est parfaitement adapté au climat de nos régions. Donc c'est un légume assez original. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo, mais en forme de queue de cochon. C'est une plante de la famille des labiers. C'est la même famille que toutes les plantes aromatiques de type thym, romarin, menthe, basilic, enfin énormément des plantes aromatiques. Et d'ailleurs, la feuille et la fleur y ressemblent, comme vous voyez là sur la photo. Ça ressemble à une sauge ou quelque chose comme ça. La culture du crone, donc elle n'est pas du tout compliquée, il suffit de mettre les crones en terre et puis ça germe à coup sûr. C'est niveau récolte que ça se complique un peu. Déjà parce que les queues de cochon là sont assez petites, assez fastidieuses à ramasser, et en plus elles sont énormément cassantes. Donc si vous avez un sol qui est un peu argileux, vous allez passer votre temps à décoller l'argile en essayant de ne pas casser les crones, donc c'est pas forcément évident. Sinon, voilà, en termes de conservation, ça se conserve pas du tout bien. Donc, c'est le type de tubercule qu'il faut laisser absolument en terre toute l'année. Et là, pour le coup, il faut vraiment l'arracher au fur et à mesure de vos besoins, à condition que le sol soit pas gelé sur 30 cm, sinon c'est pas la peine. On enchaîne encore avec un exotique, l'oca du Pérou. Donc là encore, c'est un tubercule plutôt rond qui peut faire là aussi la taille d'un petit abricot au plus gros, un peu rosé. La particularité là, c'est que le feuillage est lui aussi comestible et il n'est pas inintéressant par sa saveur un peu acidulée pour agrémenter les salades ou toutes les crudités. Donc dès la fin avril, vous pouvez déjà commencer à consommer le feuillage. En plus, j'ai remarqué qu'au plus vous allez consommer le feuillage, au plus la plante va stocker des réserves dans les racines. Donc au plus vous allez prélever des feuilles, au plus les tubercules au début de l'hiver vont être gros et donc la récolte intéressante. Pour les climats les plus ou les moins favorables, le tubercule risque de geler en terre. Donc là par contre, je vous conseille, pour ceux qui sont en altitude ou dans une région un peu exposée au froid, de mettre quelques tubercules de côté pendant l'hiver pour pouvoir les replanter au printemps. A l'inverse, ceux qui sont plutôt en plaine ou sous des climats littoraux par exemple, vous pouvez laisser quelques tubercules dans le sol et ils redémarreront sans problème au printemps suivant, dès que les conditions seront favorables. Voilà, je vous passe les descriptions des saveurs, tout simplement parce que c'est assez subjectif. J'aurais beau vous dire que c'est un goût de cœur d'artichaut ou je sais pas quoi. Le mieux, c'est que vous goûtiez par vous-même et que vous fassiez vos propres expériences. Encore une inconnue, pour la plupart d'entre vous, je pense, la poire de terre, qu'on appelle aussi le yacon, avec un Y. Donc c'est une plante tout à fait particulière. On consomme aussi une partie seulement du système racinaire. Le système racinaire est composé de deux parties. Une première partie qui est la moins enterrée, la moins profonde. C'est un système racinaire fasciculé, c'est-à-dire un emmêlement de racines comme on a l'habitude de le voir chez de nombreuses plantes. Et en dessous, donc plus profondément, la plante réalise, donc, ou en tout cas possède ses organes de réserve qui ressemblent à, je sais pas, à des saucisses un peu renflées, là, comme on voit là. Et ce sont ces parties-là donc, que l'on consomme. Donc la plante peut être arrachée. On peut lui enlever ces parties-là qui sont renflées et qui sont charnues et remettre la plante ensuite en terre. À condition, là encore, que vous soyez sous un climat suffisamment favorable, parce que la plante est assez frileuse et au-delà de moins 2, moins 3, il n'y a plus personne. On l'appelle poire de terre tout simplement parce que à sa texture et à sa saveur, ça ressemble énormément à de la poire. Donc c'est assez granuleux à la texture et la saveur, donc je vous laisse découvrir. Ça se marie très bien avec la poire, notamment dans des desserts. On peut faire des crumbles par exemple, poire classique, le fruit, et poire de terre. Voilà, donc là il y a de quoi creuser un peu. On se rend peut-être pas bien compte sur la photo, mais la plante est aussi très originale, avec un feuillage vraiment hors du commun. Et sa place, bien qu'elle ne fleurisse pas, ou pas souvent sous nos latitudes, sa place dans les massifs est toujours remarquée, juste au moins pour le feuillage. Et je ne pouvais pas vous présenter des légumes vivaces, ou en tout cas des rhizomes comestibles, sans vous parler du topinambour et de son proche cousin, les lianti, qu'il est parfois difficile de différencier d'ailleurs. Mais alors là, c'est le légume vivace par excellence. Donc je sais qu'il souffre d'une mauvaise image. Il rappelle les années sombres et la période de la guerre. Et pourtant, il est quand même plein d'intérêt au jardin, mais aussi dans l'assiette. Sa floraison, comme vous le voyez, n'est pas sans intérêt non plus. Il faut savoir que les hampes florales, donc là, la photo que vous voyez, les hampes florales peuvent monter jusqu'à 3,50 m de hauteur. Donc, si vous souhaitez faire une haie saisonnière, par exemple, si vous voulez vous cacher des voisins, mais que pendant l'été, eh ben, vous pouvez faire une haie de topinambour. Et en plus, elle pourra vous nourrir à la fin de l'été. Bon, c'est une façon d'allier l'utile à l'agréable. Sur la photo, donc, vous voyez les lianties et le topinambour. Vous avez le topinambour en rose. Et les lianties qui sont plus allongées et beige. Un gros inconvénient aussi du topinambour et les lianties, c'est leur richesse en inuline. Donc l'inuline, pardon, c'est un sucre un peu particulier qui provoque, pour ceux qui ont l'habitude d'en consommer, des petits problèmes digestifs. Si vous aimez la saveur du topinambour et que vous voulez vous affranchir de ces petits désagréments, il est possible de consommer les feuilles de topinambour qui ont exactement la même saveur. Et comme elles sont moins riches en inuline, ne présentent pas ces petits désavantages. Donc tout au long de la saison, vous pouvez cueillir les feuilles de topinambour, les faire ramollir vite fait à la vapeur, et les consommer comme bon vous semble, en gratin, en tourte. Là, je vous laisse choisir. Mais vous allez retrouver exactement la même saveur que le topinambour. Et les fleurs sont elles aussi comestibles, donc peuvent décorer les plats, les salades, tout ce que vous voudrez. Donc voilà pour la sélection que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Par contre, il faut savoir que le choix est presque infini, parce qu'on peut explorer dans diverses directions. Dans l'ouvrage que j'ai signé chez Terre Vivante, il y a une soixantaine de plantes vivaces, de légumes vivaces. Mais c'est pas exhaustif non plus. Et on peut donc creuser et approfondir dans plusieurs directions. Donc il y a tout d'abord les petits fruits. Les petits fruits qui trouvent complètement leur place au potager. Donc j'ai mis la fraise qui a déjà sa place habituellement dans les potagers. Mais on peut rajouter aussi le kiwi, la photo que vous voyez en haut à gauche. C'est un cousin du kiwi, mais les fruits sont beaucoup plus petits. Il mesure 1 à 2 cm de hauteur. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin de l'éplucher, justement. Il se consomme avec la peau. Il est beaucoup plus fin que le kiwi traditionnel. Donc lui aussi peut trouver sa place dans le potager. Il est à palisser, donc il faut lui installer une petite palissade. Et c'est intéressant, notamment pour protéger le potager du vent dominant, du vent le plus froid. D'autant que le kiwi résiste jusqu'à moins 25 ou moins 30, très facilement. Il nous vient des contreforts de l'Himalaya. Donc l'astuce, ce serait de l'associer au potager et de le mettre donc du côté d'où vient le vent dominant, le vent le plus froid. Et il protégerait ainsi tout le potager du vent froid. Voilà pour les petits fruits. On peut aussi élargir dans le domaine des plantes aromatiques. Donc là, je vous ai mis une photo de thym. Mais il y a énormément de plantes aromatiques qui pourraient trouver leur place dans un potager vivace. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais on peut rajouter la monarde, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et comme la plupart des plantes aromatiques sont vivaces, elles s'associent parfaitement aux légumes perpétuels. Ensuite, on peut aussi développer, et là c'est intéressant de creuser région par région, du côté des légumes sauvages, qui pour beaucoup sont aussi vivaces. Donc là je vous ai mis une photo de plantain, qu'on retrouve dans toutes les régions, mais selon les terroirs, certaines plantes étaient consommées ou pas, et surtout des légumes vivaces, des légumes sauvages. Les légumes sauvages ne poussent pas partout pareil. J'ai parlé aussi tout à l'heure de l'ortie. On pourrait rajouter les mauves, la mauve sylvestre, pour ceux qui connaissent. Voilà, là aussi, il y a de quoi creuser. Et enfin, je vous parlais de décloisonner le potager avec le massif ornemental. Et donc, je vous ai mis là une photo de rose trémière. Donc la rose trémière qu'on connaît plus souvent comme plante ornementale que comme légume vivace. Et pourtant, c'est aussi un excellent légume vivace puisque tout chez la mauve est comestible. Elle appartient à la famille des malvacées. C'est la même famille que l'hibiscus par exemple. Et c'est une famille botanique. Elles sont rares, donc je me permets de le préciser. C'est une famille botanique où tout est comestible. Donc dans les malvacées, vous pouvez tout consommer. Il n'y a absolument aucun risque. Donc la rose trémière a parfaitement sa place dans le potager perpétuel. Vous pouvez consommer les feuilles, les fleurs, mais aussi les fruits. Les fleurs sont un peu grandes, mais elles permettent de décorer les plats quand même. Et il existe des recettes qui n'intègrent que les pétales. Donc vous pouvez défaire une fleur de rose trémière et n'utiliser que les pétales. Des chips de pétales de rose trémière, par exemple. Voilà, donc de quoi satisfaire les papilles, les yeux et l'esprit. Voilà, donc une petite photo, je ne sais pas si vous voyez tous bien, mais d'un potager perpétuel, où ce sont les plantes qui font leur loi, où sont associées les légumes traditionnels, les légumes annuels, vous voyez quelques plants de maïs à l'arrière-plan, avec énormément de plantes vivaces, de légumes vivaces et de plantes aromatiques et médicinales. Au premier plan, il y a des agastaches ou des échinacées qui, elles aussi, peuvent parfaitement trouver leur place dans le potager perpétuel. Et c'est subjectif, mais voilà, c'est, on est à mi-chemin entre le potager et le massif ornemental. Voilà, et je rappelle une de mes phrases fétiches pour conclure. Il existe des solutions aux problèmes de nos sociétés, et je pense qu'elles sont en grande partie végétales. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je vous y réponds.
Voilà, merci Aymeric. Je pense que ça suscite beaucoup de questions. Il y en avait tout à l'heure, je me souviens de la question sur l'ail des ours. On va vous redonner la parole. Donc vous attendez bien d'avoir le micro pour reposer votre question afin que tout le monde l'entende et qu'elle soit enregistrée. Voilà, préparez vos questions, je suis à vous. Je propose qu'on commence par la question qui avait commencé sur l'ail des ours. Je vous apporte le micro.
Oui, la question c'était sur l'ail des ours et puis d'autres plantes un peu du même style. Si on consomme tout, de quoi ça repart après l'histoire du perpétuel, où est-ce qu'il est en fait, comment on fait pour justement que d'une année sur l'autre on conserve une partie des plantes?
Merci pour la question. Alors évidemment, ça je vous l'accorde, si vous consommez tout, il ne reste rien. Donc ça ne peut pas repartir l'année suivante. L'idée c'est justement... À la différence du potager classique où on récolte tout ce qu'on peut avant l'hiver, on racle tout, comme si on avait peur de manquer. Là non, c'est vraiment de prélever ce dont on a besoin en pensant justement à laisser le nécessaire pour que la culture reparte l'année suivante. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous cultivez des pommes de terre. Souvent on oublie quelques petites pommes de terre sur la parcelle et l'année suivante elles repartent. Et bien là, effectivement, je vous demanderai de faire pareil avec les légumes vivaces, c'est-à-dire d'en oublier quelques-uns pour qu'ils repartent l'année suivante et pour garantir l'éternité de la culture, la pérennité de la culture.
Moi, j'avais une question concernant l'asperge. Ça ne se cultive pas dans toutes les zones. C'est très sensible au froid.
Oui, c'est sensible au froid. Je ne sais pas d'où vous venez, mais ça résiste quand même jusqu'à moins 15, sans problème. En fait, le système racinaire est bien enterré, il est bien protégé, bien isolé du froid. Et c'est les turions qui sont assez sensibles. Il est fréquent que les premiers turions gèlent, effectivement. C'est pour ça que les premiers, habituellement, on les consomme, on n'attend pas trop. Et c'est les derniers qu'on laisse, les derniers qui sortent de terre au mois de juin. Eux, par contre, on les laisse pour laisser à la plante la possibilité de faire du feuillage. Pour l'asperge, juste pour rebondir sur votre question, c'est pas tellement un problème de climat, parce que c'est vraiment une culture rustique. C'est plus un problème de sol. Les griffes d'asperges, le système racinaire de l'asperge, on appelle ça une griffe. La griffe a besoin d'un sol assez meuble pour se développer. Et si vous avez un sol trop argileux ou trop compact, il aura plus de mal. L'asperge préfère les sols limoneux ou sablonneux plutôt que trop argileux. Voilà.
Oui, une question en devant là.
Toujours pour continuer sur l'asperge, est-ce qu'il vaut mieux partir de griffes ou de graines?
Si vous êtes patient, vous pouvez essayer les graines. Il y aura un avantage essentiel, c'est que le plant sera acclimaté déjà à votre terrain et aux conditions climatiques. Une griffe, suivant d'où elle vient, si elle a été un peu boostée, entre guillemets, il y a des chances qu'elle mette plus de temps à s'acclimater qu'un plant issu de graines. Mais ça, malheureusement, c'est le cas pour de très nombreuses plantes. Si vous avez un peu plus de patience... Et c'est mieux de partir de graines, oui.
J'ai une question par rapport au topinambour. Si on est dans un jardin partagé, moi je souhaitais en mettre. Et comme beaucoup d'espèces, il y a des gens qui me disent on va se faire envahir. Donc comment est-ce qu'on peut limiter la multiplication des topinambours ou d'autres choses de cette espèce, d'autres légumes qui se multiplient aussi beaucoup par-dessous?
Donc, je vous rappelle, approchez bien le micro de votre bouche, hein, c'est un métier. Et donc, je redis la question pour au cas où elle n'ait pas été bien enregistrée. La crainte que certaines plantes, notamment le topinambour, soient invasives, c'est-à-dire qu'elles se développent trop. Donc, comment faut-il pour qu'elles se reproduisent, mais contrôler tout ça?
Merci. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de classification officielle de ce qu'est une plante invasive. Donc, parfois, certains disent c'est invasif, d'autres non. Il n'existe pas de liste définie. Par contre, là, pour le coup, c'est factuel. Le topinambour a un caractère assez envahissant, c'est-à-dire qu'il se multiplie très facilement. Il a un pouvoir d'adaptation qui est exceptionnel. Et parfois, on a tendance à se faire gagner par le topinambour, d'autant qu'il se bouture très facilement à partir du moindre éclat de tubercule. C'est-à-dire que le moindre petit fragment de tubercule donnera un nouveau plant. Donc effectivement, si vous n'êtes pas très précis au moment de la récolte, si vous faites un petit peu, si vous le faites au hachoir, si vous faites votre récolte au hachoir, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec du topinambour de partout. Donc, y a les solutions. Déjà, c'est d'être propre au moment de la récolte, donc d'éviter de faire des éclats et d'en disséminer un petit peu partout. Et si vraiment vous avez peur d'avoir des plaintes de la part des voisins, c'est de le cultiver en situation close, c'est-à-dire soit d'enterrer un pot et de limiter son système racinaire, soit de lui mettre des barrières anti-rhizomes, comme on les utilise habituellement pour le bambou, par exemple, qui lui aussi est considéré parfois comme envahissant. Donc ce sont des lames de plastique qu'on enterre verticalement sur une trentaine de centimètres, juste sur l'horizon sur lequel la plante développe ses rhizomes et qui empêcheront la plante de se déplacer latéralement, c'est-à-dire de gagner du terrain. Mais évidemment, la première des précautions, c'est quand même d'être très propre au moment de la récolte et également, d'un point de vue du compostage, éviter de mettre des éclats de rhizomes de topinambour dans le compost, parce que là, c'est sûr que vous allez vous en retrouver, vous allez en retrouver de partout.
Est-ce qu'il y a de la mineuse sur le poireau perpétuel?
Alors,
bonne question.
La problématique des ravageurs. Alors oui, les légumes perpétuels sont eux aussi concernés par les ravageurs. On retrouve les mêmes sur les légumes vivaces qu'il y a sur les légumes traditionnels. Par contre, l'intérêt du potager vivace, c'est qu'on n'a plus besoin de réunir la même espèce, une espèce, au même endroit et de faire des rangs parfaitement alignés sur des centaines et des centaines de mètres. L'intérêt du potager vivace, c'est justement, comme il est vivace, de brouiller un peu les pistes pour les ravageurs et de mixer au maximum les espèces et les légumes. C'est-à-dire que si vous voulez avoir 100 plants de légumes, de 100 plants de poireaux perpétuels, pardon, au lieu de les aligner au cordeau et de les mettre tous au même endroit, eh bien, c'est intéressant d'en mettre un peu partout et surtout séparer les uns des autres, qu'ils soient séparés les uns des autres par d'autres cultures. Et ainsi, si un plant venait à attraper une maladie ou à permettre à un ravageur de se développer, ça limiterait la pandémie ou en tout cas l'expansion du ravageur. Donc oui, pour répondre à votre question, les légumes vivaces sont touchés aussi par des ravageurs. Mais les dégâts sont beaucoup plus limités et beaucoup plus ponctuels, justement parce qu'on on déconcentre les plantes d'une même espèce.
Est-ce qu'on trouve ces légumes facilement dans le commerce? Oui, est-ce qu'on trouve ces légumes facilement dans le commerce?
Alors, de plus en plus, les légumes vivaces, on le vend en poupe. On le doit sûrement au développement de la permaculture. Donc, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais pour certains, c'est encore assez difficile. Ça, je vous le concède. Bien souvent, vous êtes obligé soit de vous rendre sur des manifestations spécialisées sur le thème du jardin, des foires aux plantes, des choses comme ça, soit de prospecter sur Internet parce que les pépinières spécialisées dans le domaine ont bien souvent des boutiques en ligne et ne se trouvent pas forcément dans le département où vous vivez. Donc voilà, la solution là pour le coup c'est vraiment de s'orienter vers Internet. Mais avant, vérifiez quand même s'il n'y a pas un producteur dans votre département. C'est toujours mieux de faire fonctionner le commerce local.
Voilà, oui, je confirme, avant de vous redonner la parole, je vous confirme que ça se trouve assez facilement. Hein, des très grandes marques de plants et de semences d'achat par correspondance sur Internet, puisque maintenant la vente par correspondance c'est Internet, proposent tous ces légumes dont on vient de parler lors de la présentation. Donc, bon, je ne vais pas vous faire de... Si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou si vous-même vous maîtrisez Internet, sur Google ou sur tout moteur de recherche qui vous agréera, vous tapez légumes vivaces, vous allez trouver des fournisseurs très rapidement. Vous pouvez aussi profiter du salon pour faire la tournée des quelques fournisseurs qu'il y a pour leur poser la question. Et s'ils ne l'ont pas sur le salon, ils l'ont peut-être à disposition, puisque justement... il propose aussi de la vente par correspondance via Internet ou via aussi des bons vieux papiers, bulletins de commande papier pour ceux qui ne veulent pas utiliser ou ne peuvent pas utiliser Internet. Je rends la parole à la salle.
Oui, juste pour confirmer, effectivement, j'ai vu de nombreuses semences ou de nombreux tubercules des plantes que je viens de vous présenter sont en vente sur le salon aujourd'hui. J'en ai vu plusieurs ce matin.
Voilà, ça va vous occuper dans l'heure qui vient. Des questions ?
Oui, donc moi je voudrais juste savoir, vous nous avez parlé beaucoup de légumes vivaces, mais par exemple avec quels arbres fruitiers, donc qui sont vivaces aussi, on pourrait les associer ?
Alors potentiellement tous. La question qui se pose c'est la place que vont prendre les arbres fruitiers, donc ça va être un problème de place et aussi d'exposition. C'est pas sans intérêt pour certaines des plantes que je vous ai présentées, par exemple l'ail des ours qui a absolument besoin d'être à l'ombre. Et au pied des arbres pour profiter de l'amendement naturel, c'est-à-dire de l'humus que constituent les feuilles mortes qui tombent au sol. Donc l'association est toute naturelle et a toute sa place dans un potager vivace, à condition de ne pas laisser une place trop large quand même aux arbres fruitiers, parce que de nombreux légumes vivaces ont quand même besoin d'un plein soleil. Voilà. Donc associer les arbres fruitiers au potager vivace, c'est une très bonne idée, à condition de bien réfléchir à l'association des deux.
Je pense que l'artichaut est aussi une plante vivace et je m'interroge à propos de tout ce qui est famille des choux.
Alors oui, je vous confirme que l'artichaut est un légume vivace. On parlait tout à l'heure de rusticité, l'artichaut n'est pas très rustique par contre. Donc au-delà de, je crois que c'est moins 8, moins 10, il n'y a plus personne. Donc voilà, l'artichaut à privilégier dans les coins les plus protégés du froid et les mieux exposés. La particularité de l'artichaut, c'est qu'il est très gourmand en matière organique. Il a besoin d'un sol très profond et très humifère dans le sens riche en humus. Donc l'artichaut a besoin chaque année de faire l'objet d'un amendement ou d'un apport soit de fumier, soit de compost bien mûr, parce qu'il consomme énormément de matières nutritives. Il épuise énormément les sols. On a aussi un proche cousin de l'artichaut qui est un légume vivace, c'est le cardon, pour ceux qui le consomment encore. Et la suite de la question portait sur les choux. Donc effectivement, on a deux choux, à ma connaissance. On a deux choux vivaces, deux choux perpétuels. On a le chou de Daubenton, D-A-U-B-E-N-T-O-N, qui est un chou vivace. Et j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, le chou maritime ou le crambé, qui est un super chou vivace, qui vraiment est une plante à découvrir. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, que les jardiniers ont sauvé de l'extinction.
Juste une petite question, est-ce que la poire de terre peut passer l'hiver en cave ? Vous avez dit qu'elle était très frileuse. Qu'est-ce qu'il advient d'elle en hiver ?
Oui, alors effectivement, la conservation pour la poire de terre est un peu plus délicate que pour les autres plantes, parce qu'elle est frileuse, on ne peut donc pas la garder en terre, et en même temps, elle sèche à l'air libre. Donc il faut trouver un compromis entre la pleine terre et l'air libre. Donc c'est un peu le même problème que pour les carottes, par exemple. Ce que je vous conseille et ce qui marche le mieux, c'est de la conserver en jauge, ou en tout cas dans du sable frais et humide, que vous garderez à température très basse, c'est-à-dire entre 0 et 8 degrés, mais à l'abri du gel quand même, pour ne pas faire geler la racine, voilà, jusqu'au printemps, et là elle redémarrera au printemps. Mais la conservation à l'air libre ne marche absolument pas, les tubercules ou la racine sèche meurent complètement, c'est une catastrophe. Si je peux me permettre juste une précision, je pensais que j'aurais la question et je ne l'ai pas eue, c'est en ce qui concerne la concurrence avec les adventices et l'enrichissement du sol. Parce que comme on est sur un potager vivace, on épuise les sols. La plante qui est en place pour 10 ou 15 ans, vous pouvez bien comprendre qu'elle va épuiser l'endroit où elle est. Et en plus, pendant 15 ans, elle va exporter toujours les mêmes minéraux et toujours les mêmes éléments. Donc il y a une solution à ça et qui convient parfaitement au potager vivace, c'est l'utilisation du BRF. L'avantage du potager vivace, c'est qu'on ne déplace pas les plantes d'une année à l'autre. Et on peut donc se permettre de mettre en place une couche de BRF très importante à l'automne, à la saison du BRF, donc en août-septembre. On peut se permettre de mettre 15 ou 20 cm de BRF au pied de nos légumes, ou même sur toute la parcelle pour ceux qui le souhaitent. Et ça va avoir plusieurs avantages. Déjà, le BRF, par sa couche inférieure, va être dégradé par la biologie du sol, les vers de terre par exemple, et donc va permettre de réenrichir le sol en matière organique, ce qui va alimenter les légumes. Donc ça, c'est pour l'aspect fertilisation. En plus, au cours de la saison suivante, donc si vous le mettez en septembre, au cours de l'été suivant, le BRF va jouer un rôle de paillage qui est extraordinaire et va prévenir, ou en tout cas limiter le manque d'eau et le stress hydrique sur vos légumes. Donc ça va permettre de réduire là aussi les arrosages et donc les tâches d'entretien. Et enfin, dernier avantage, c'est que comme il joue un rôle de paillage, le BRF va prévenir le développement des adventices. Et donc, vous pourrez vous affranchir de tout ce qui est désherbage, qu'il soit manuel ou chimique. Enfin, c'est une blague pour le chimique. Ouais, c'est pas grave.
Faut-il mettre un goutte à goutte pour les plantes vivaces ?
Alors, oui, il faut mettre un goutte à goutte pour les vivaces, mais pour toutes les plantes, je vous encourage à mettre un goutte à goutte. C'est vraiment le système, c'est un système de précision et donc efficace en termes d'économie et en termes d'efficacité de l'eau apportée. On ne va pas avoir de ruissellement, on va apporter juste la quantité qu'il faut au moment où il faut et à l'endroit où il faut. Donc j'aurais pu vous répondre sur un autre sujet, à propos d'un autre sujet, pas forcément du potager vivace, mais oui, le goutte à goutte est la solution, en tout cas actuellement, c'est la meilleure solution qu'on connaît pour un arrosage efficace et durable.
Alors, est-ce que ces conseils de culture, est-ce que dans le livre qui sera proposé, qui pourrait être disponible là-bas à la sortie, est-ce qu'il y a des conseils de culture ou est-ce que c'est une présentation des...
Alors,
justement
non.
Sur les besoins en eau, sur la manière de cultiver, qui pour les néophytes ou les jardiniers amateurs, qui doivent représenter quand même une bonne majorité, je pense, d'entre nous, sont toujours un peu perdus sur qu'est-ce que je rajoute, comment j'arrose, quel type de terrain, etc.
Alors, oui, effectivement, je voulais surtout pas tomber dans le catalogue. Donc, c'est un livre, hein, c'est pas un catalogue de légumes vivaces. Et donc, il y a énormément de conseils de culture, mais aussi, tout à l'heure, on avait la question pour trouver les plants, donc il y a un carnet d'adresses. Et également quelques idées de préparation et de conservation, de techniques de conservation. Donc pour chaque légume, comment les préparer, comment les conserver et surtout évidemment comment les cultiver.
Oui, je rebondis sur le BRF parce que moi je me suis un peu renseigné. On m'a toujours dit de faire attention avec le BRF, avec la fin d'azote. Si on met que du BRF, on va avoir une fin d'azote. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter une légumineuse avec ou...
Complètement. Si vous pouvez semer un engrais vert associé à votre BRF, ce n'est que mieux. Après, ce qui se passe, c'est que la fin d'azote, elle pourrait éventuellement se produire lors de la première année de BRF. Ensuite, si vous en rajoutez chaque année 15 cm, il n'y a plus de fin d'azote parce que l'équilibre est en place. Et donc, vous prévenez le phénomène de fin d'azote. Voilà. Après, effectivement, je n'ai pas parlé des engrais verts, mais si vous avez la possibilité de semer un engrais vert, là, c'est plus délicat de semer des engrais verts entre les légumes vivaces, mais pourquoi pas.
Tout le monde sait ce qu'est le BRF ? Oui ? Bois raméal fragmenté, c'est ça ?
Voilà, bois raméal fragmenté, donc c'est...
C'est tous les petites branches du jardin, quand vous faites votre taille, que vous passez au broyeur, parce que si vous faites ça au sécateur, ça va vous prendre un certain temps. Donc un bon investissement, c'est un broyeur. Et c'est vrai que ça vous donne, suivant la taille des branches et le fait qu'elles soient plus ou moins en bois, plus ou moins ligneuses, vous avez un produit qui à la fois peut vous servir à protéger des allées pour quand il pleut ne pas trop traîner de terre, et à la fois quand elles sont un peu plus décomposées avec des tiges un peu plus vertes, avoir quelque chose qui se décompose plus vite. Donc c'est quelque chose d'assez fabuleux et qui a de multiples utilisations et qui se composte très bien au fil du temps. Des questions pendant ce temps-là, c'était pour vous permettre de réfléchir.
Non, c'est toujours sur le BRF, parce que là, j'ai vraiment un doute par rapport au BRF. Il m'a été expliqué par un spécialiste qu'en fait, le BRF, c'était un bois jeune de printemps, c'est-à-dire en fait, qui apportait en fait au sol, au moment où on l'épand, une dose hormonale très importante qui va permettre en fait aux plantes de se développer. Donc c'est un super engrais en fait. Et donc du coup, si on applique ce principe-là, tout n'est pas BRF parce qu'en fait, à certaines époques de l'année, à d'autres époques de l'année, le bois n'est plus en train de fabriquer des bourgeons et donc du coup n'apporte pas d'hormones. Donc est-ce que vous pourriez faire la distinction entre les différentes sortes de BRF ou est-ce que c'est la même chose ou pas ?
Alors effectivement, le BRF, c'est pas un simple broyat qu'on trouve toute l'année, c'est quelque chose d'assez précis. Juste, c'est pas un broyat de printemps, c'est un broyat d'automne. Le BRF, il est réalisé avec des jeunes rameaux en cours de lignification. On parle de bois de semi-aouté. Donc les rameaux de l'année chez les arbres, ils sont herbacés, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de lignine, la molécule du bois. Ils sont herbacés jusqu'au mois d'août à peu près. Et au mois d'août de leur année de naissance, ils se lignifient. C'est-à-dire qu'il y a de la lignine qui va venir dans leur tissu. C'est au moment de cette lignification que ces rameaux sont coupés et sont broyés. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient du BRF. Donc ce sont des rameaux en cours de lignification, c'est-à-dire semi-aoutés. Et c'est à ce moment-là qu'ils contiennent le plus de glucides, de sucres. Et ce sont ces sucres qui, une fois que les rameaux auront été broyés, qui vont être restitués au sol et qui vont venir alimenter la microfaune du sol pour permettre une explosion biologique, une explosion bactérienne qui est très intéressante d'un point de vue agronomique. Donc le BRF, c'est du broyat réalisé sur du bois de l'année, vers les mois de septembre-octobre.
Est-ce qu'il y aurait une possibilité de coupler les plantes vivaces avec différentes techniques de permaculture, en particulier la butte, par exemple ?
Ah oui, complètement, complètement.
Comment
Alors, toutes les techniques de permaculture peuvent être appliquées aux légumes vivaces. Simplement, ce que je regrettais, c'est justement que la permaculture n'ait pas cette réflexion de la durée de vie des plantes. C'est-à-dire que permaculture, ça vient quand même de culture permanente. Et à aucun moment, il y avait eu cette réflexion de la durée de vie des légumes qui était un petit peu courte et un petit peu négligée. Donc toutes les techniques de permaculture peuvent s'adapter aux légumes vivaces. Et inversement, tous les légumes vivaces peuvent venir s'associer à des techniques de permaculture en association avec d'autres cultures qui sont annuelles. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Comme vous le voyez là, je n'ai rien contre les plantes annuelles. Et toutes trouvent leur place dans mon jardin. Donc oui, culture en butte, en sandwich, tout ce que vous voulez, en lasagne, tout marche pour les légumes vivaces.
Bonjour. Alors, moi, je serais intéressé de savoir si il existe en France, ou en tout cas à votre connaissance, même en dehors, des systèmes maraîchers, c'est-à-dire, je vais utiliser un mot qui peut peut-être être considéré comme un gros mot, mais des systèmes rentables, économiques, dans lesquels on pourrait inclure ce type de culture-là.
Alors, actuellement, aucune exploitation ou aucun commerce de production de légumes vivaces n'est exclusivement orienté vers légumes vivaces. Par contre, tous les légumes vivaces auraient leur place, dans, à mon sens, dans toutes les exploitations maraîchères et dans toutes les exploitations agricoles possibles. Je pense que le changement des mentalités est en cours. Je peux prendre l'exemple de la ferme du Bec et Loin, par exemple, qui a prouvé à de nombreuses reprises que la permaculture était aussi productive, voire davantage que l'agriculture conventionnelle. Je pense que les légumes vivaces auraient complètement leur place dans des exploitations comme celle du Bec et Loin. Et à plus long terme, pourquoi pas dans toutes les exploitations déjà maraîchères et puis ensuite agricoles d'un point de vue général. Déjà, je pense que le consommateur est demandeur de ces légumes vivaces. soit parce qu'ils veulent des légumes toute l'année, deux saisons toute l'année et locaux, soit pour l'originalité, j'allais dire, des saveurs. Donc oui, je pense et j'espère que les légumes vivaces vont gagner du terrain de ce côté-là.
Oui, j'appuie un peu ce qui vient d'être dit. Si on prend l'exemple des crônes du Japon, qui est un légume très cher à l'achat, hein, quand au moment de Noël, vous vous dites « je voudrais faire quelque chose d'original, je voudrais acheter des crônes », c'est le prix du caviar, quoi, quasiment. Donc ça vaut le coup, non pas de sacrifier, mais de réserver un coin de terrain chez vous. Si vous l'avez avec de la terre un peu légère, comme il vous l'a été dit, parce que c'est plus compliqué de les ramasser sur de la terre type argile, mais il y a vraiment des choses à faire, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, parce que le jardinier amateur se laisse prendre par la spirale, je mets mes premiers radis 18 jours, je mets mes premières salades, et j'oublie de mettre mes vivaces. Comme elles sont vivaces et éternelles, j'aurai toujours le temps de les mettre, sauf qu'on ne le fait jamais, du coup. Donc voilà. Bien, ben je vous remercie à tous et à toutes. Merci. Et je vous laisse échanger. Voilà, merci.